France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, Volodymyr Zelensky. Voilà bientôt 3 ans que la Russie de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Bientôt 3 ans depuis le 24 février 2022 que les projecteurs de la communauté internationale sont tournés vers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'homme qui a dit aux Occidentaux qui lui proposaient l'exil « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Ni militaire, ni homme politique, quand il est élu président de l'Ukraine en mai 2019, Zelensky est un humoriste et un comédien. Une candidature pirate et anti-système qui emporte tout sur son passage. Un homme que les Ukrainiens confondent avec le rôle qu'il tient sur leurs écrans, celui, dans une série appelée « Serviteur du peuple », d'un homme sorti de nulle part et devenu président d'Ukraine. Voilà donc une histoire dans laquelle réalité et fiction s'entremêlent. Celle d'une vedette de la télé sortie des écrans et devenue chef d'une nation en guerre. Nos invités aujourd'hui, Ariane Chemin et Yves Jolland, respectivement journaliste au Monde et réalisateur de documentaires. Ils sont avec Lisa Vapnet, l'autrice et l'auteur d'un documentaire en 2 parties sur Volodymyr Zelensky, intitulé « Comment Volodia devint Zelensky », actuellement en cours de fabrication et qui sera diffusé sur Arte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Le 25 décembre 1991, nous sommes dans une grande ville à l'est de l'Ukraine du nom de Krivirog. De grandes barres d'immeubles grises, des fumées noires qui s'échappent des cheminées des usines sidérurgiques et des centaines de milliers d'Ukrainiens russophones, tout entier tourné vers l'exploitation des minerais de fer destinés à l'URSS. Ils sont logés dans des quartiers froidement appelés quartiers numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Quartier 95, en ukrainien, Kvartal 95. Rue Gagarine d'un côté, avenue des métallurgistes de l'autre. Volodymyr Zelensky a 13 ans. Sa mère est ingénieure, son père professeur de maths à l'université d'État. Dans sa chambre d'enfant, il y a son uniforme de pionnier soviétique. Une blouse grise et un foulard rouge, celui des jeunesses communistes, dans lesquelles il faudra bientôt qu'il entre. À moins que... Et précisément, ce 25 décembre 1991, dans ce qui reste de l'URSS, on voit Mikhail Gorbatchev se présenter à la télé. Fond gris, drapeau rouge, tasse de thé sur un bureau sombre. Ce soir, la mort dans l'âme, il annonce la fin de l'ère soviétique.
Chers compatriotes,
chers concitoyens,
en raison de la situation résultant de la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS.
Volodymyr Zelensky n'entrera pas aux jeunesses communistes. Et c'en est fini des appels au drapeau à l'école du quartier et des chants à la gloire de Lénine. Pour Noël 91, les Ukrainiens assistent à l'effondrement de l'URSS et entrent dans un autre monde. Voilà quelques semaines qu'ils avaient retrouvé leur indépendance pour la première fois depuis 1922. Mais ce soir, les Ukrainiens peuvent vivre sans l'ombre menaçante de leurs voisins soviétiques. Zelensky, 13 ans, peut s'imaginer un avenir. Ce générique, c'est celui d'une émission extrêmement populaire en Russie et dans toute l'ancienne URSS, KVN. Le club des joyeux et des ingénieux. Une compétition de sketch entre des troupes venues du monde russophone, une sorte de télécrochet. Nous sommes en 1998, 7 ans après la chute de l'URSS. L'émission KVN se déplace dans la ville de Sotchi, en Russie. Zelensky a 20 ans. Il apparaît à la télé pour la première fois. Mais avant que le rideau ne s'ouvre sur ce jeune homme, qu'est-il devenu depuis 1991 ? Eh bien, c'est un garçon qui a vu sa ville natale sombrer dans la violence. La chute de l'URSS a dégagé l'horizon, certes, mais elle a aussi fait plonger les régions industrielles dans la déshérence. Gangster City. C'est comme ça que Zelensky appelle Krivoy Rog, sa ville. Cet ado de petite taille évite ce monde dangereux en se réfugiant dans une communauté plus heureuse, les rockers. Les photos le montrent en débardeur, pantalon de cuir et boucles d'oreilles. Il écoute les Beatles, les Eagles, Aerosmith et il chante leurs morceaux. Oui, Zelensky chante, danse et joue au théâtre. Il convainc ses amis de se lancer dans des concours de sketch. D'abord dans la ville, puis dans la région. Alors on le voit sautiller, courir, s'évanouir, pleurer et il fait rire. Zelensky a une capacité innée à faire rire. Alors, avec ses amis, il s'inscrit à cette émission KVM. Et la troupe, portée par son énergie et sa capacité de travail, est sélectionnée pour l'émission se déroulant à Sochi en 98. Une compétition avec 300 autres équipes venues de toute l'ex-URSS. Sur la scène du théâtre, devant les centaines de spectateurs, chaque troupe installe son décor à tour de rôle. Celui de l'équipe de Zelensky est un petit carrousel d'enfants avec une girafe imprimée dessus qui n'a pas coûté bien cher. Leur chemise blanche et leur pantalon noir non plus d'ailleurs. Autour de ces carrousels, une dizaine de comédiens défilent, enchaînant frénétiquement les blagues. Leur leader, c'est donc ce Volodymyr Zelensky.
En exclusivité ce soir pour les KVN de Sochi, le KVN Carousel. Hier, j'étais à un bal masqué, j'ai rencontré une fille avec un masque. Grand, mince, avec de longues jambes. Et son masque était petit, gros et moche. Маленькая, толстая, некрасивая.
C'est peut-être ce qu'on appelle l'humour slave, un peu abscon pour nous, mais le débordement d'énergie impressionne. Et dans la salle, le public est hilare. C'est un grand succès. La troupe est donc rappelée pour faire d'autres sketchs. Zelensky et ses amis s'installent dans l'émission durablement, et donc dans le monde de la télévision russe.
Et donc toi, tu es de quelle nationalité ?
Я русский.
Moi, je suis russe.
Ah oui.
Et toi ?
Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Disons que je suis ukrainien.
Franchement, l'Ukraine a toujours pris la place de la Russie.
Viens pas nous dire qu'on se comprend pas entre l'Ukraine et la Russie.
Pas la Russie, à l'Ukraine.
KBN, année 2001. Trois ans après Sochi. Zelensky enchaîne les passages à la télé. Dans cette émission qui fonctionne par ligue, avec des équipes qui montent et qui descendent, sa troupe joue en première division avec toujours ce nom, Kvartal 95, comme le quartier de Zelensky à Krivoy Rog. Mais la troupe n'y vit plus. Quand on est une vedette de KVN, on s'installe à Moscou. De la même façon que pour faire carrière en France, dans ce genre de métier, on monte à Paris. Zelensky, adolescent, voulait étudier à Moscou les relations internationales. Il vit maintenant de son métier d'humoriste. Et le sketch que vous venez d'entendre, où avec son acolyte il se pose des questions sur sa nationalité, correspond aux deux mondes dans lesquels évolue Zelensky, naviguant à la confluence de l'Ukraine et de la Russie. Oui, il est ukrainien, attaché à son pays. Mais sa langue, c'est le russe. L'ukrainien, il ne le parle pas très bien. Les mots lui échappent. Il a eu une enfance soviétique. Et voilà que KVN l'emmène vivre à Moscou. KVN, d'ailleurs, est un outil que la Russie utilise pour perpétuer un lien dans l'ancien monde soviétique. Kvartal 95 se produit ainsi dans tout l'espace de ce monde disparu. La troupe joue au rythme des émissions et des invitations. Ce sont parfois des hommes d'affaires fortunés qui s'offrent le spectacle des humoristes pour une soirée d'anniversaire. Mais aussi des ministres et des chefs d'État. Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Azerbaïdjan et Russie. Quand se passe la scène, on ne sait pas précisément. Elle n'a pas été enregistrée ou bien elle s'est perdue. Mais Zelensky la situe entre 1998 et 1999, à une période où Vladimir Poutine est encore Premier ministre de Boris Eltsine. Zelensky a joué devant lui. C'était leur première rencontre. Ils avaient 25 ans d'écart. Mais c'est bien plus qu'un quart de siècle qui les sépare. Zelensky est un homme que Poutine ne peut pas comprendre. Ce sont deux opposés. Un pur produit des services secrets soviétiques d'un côté, un enfant de la chute de l'URSS de l'autre. Je ne pense pas qu'il ait ri, résume Zelensky. Bien, les années passent, on lui demande d'écrire plus de sketchs, d'apparaître plus à l'écran. Il gagne en notoriété. C'est le show business russe qui la lui apporte. Le public se familiarise avec sa voix rauque, son humour lourdeau, irrévérencieux, sans jamais être trop virulent. Il aime ses grimaces aussi, qu'il emprunte à Louis de Funès. Oui, c'est l'un de ses acteurs préférés. Mais Zelensky a l'ambition de rentrer chez lui. En 2003, Kvartal 95 quitte Moscou pour s'installer à Lviv et signe un contrat avec l'une des chaînes principales du pays, dénommée 1 plus 1. Une chaîne qui offre à Zelensky des émissions, une visibilité et toujours plus de notoriété. À tel point que 10 ans plus tard, Kvartal 95 n'est plus seulement une troupe, c'est la plus grande société de production humoristique du pays.
On dit que le rire prolonge l'espérance de vie. Nos vies sont devenues bien plus heureuses et plus drôles grâce à cette équipe. Des dizaines d'émissions de divertissement à leur actif. Ce sont des maîtres de l'humour.
Ce qu'on veut, c'est tout faire au plus haut niveau.
Cette année, Studio Kvartal 95 fête son 10e anniversaire et l'équipe de KVN est devenue l'une des plus grandes boîtes de production humoristique du pays.
Zelensky est maintenant un humoriste businessman, millionnaire qui plus est. Ses affaires, il les monte avec un oligarque ukrainien, propriétaire de la chaîne 1 plus 1, un certain Igor Kolomoïsky. Sur sa chaîne, Zelensky a son rond de serviette. Il est chez lui. Les Ukrainiens le regardent chaque semaine, le samedi soir dans Quartier du Soir, une émission style cabaret, variété, et la semaine dans la Ligue du Rire, où 10 humoristes s'affrontent en improvisation.
Квартал 95 отмечает юбилей 10 лет.
Paradoxalement, ce que le public apprécie chez cet humoriste, c'est plus son charisme et son impertinence que son humour, finalement. Parce que dans ce pays inégalitaire, miné par la corruption, il se moque des politiques et des oligarques. Mais ses propos sont hypocrites. Sa société de production est elle-même financée par un oligarque. Et Zelensky a un train de vie de millionnaire, on l'a dit, entre sa propriété en Toscane et les bureaux londoniens de Kvartal 95. Et on découvrira que ses associés et lui ont fraudé le fisc à hauteur de 40 millions de dollars. Qu'importe, dans ses émissions, Zelensky vise juste. Et les événements lui donnent raison. Février 2014, Griffith est en deuil. 108 manifestants et 13 policiers ont été tués dans de terribles affrontements, dont l'épicentre est la place Maïdan. C'est la décision du président Yanukovych de mettre fin aux négociations d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne qui déclenche les hostilités. L'abandon de ses pourparlers remet le pays dans le giron de la Russie et met fin à la lutte anticorruption demandée par l'Europe. Alors, les Ukrainiens descendent dans les rues par dizaines de milliers. Et des caméras de surveillance filment le président fuyant son palais, des tableaux sous le bras. Avec la révolution de Maïdan, Zelensky prend une dimension supplémentaire. Le 1er mars 2014, il entre sur le plateau du journal télévisé de 1 plus 1. Il porte un t-shirt avec le visage de Mohamed Ali et affiche une mine préoccupée. La présentatrice le présente, pour la forme, parce que tous les téléspectateurs le connaissent. Il prend la parole, les yeux dans les yeux de la caméra.
Le président Yanukovych ne fait plus partie de l'histoire.
Deuxièmement,
je veux m'adresser à notre gouvernement. Si dans l'Est et en Crimée, le peuple veut parler russe, foutez-lui la paix avec ça. Donnez-leur le droit de parler russe, ça ne divisera jamais notre pays. J'ai du sang juif, je parle russe, mais je suis un citoyen ukrainien. J'aime ce pays et je ne veux pas faire partie d'un autre. Troisièmement, je veux m'adresser à M. Poutine. Cher Vladimir Vladimirovitch, n'engagez pas de conflit militaire. Parce que Russie et Ukraine, nous sommes des peuples frères. Je vous le dis honnêtement, je suis prêt. Je ne sais pas à vous supplier à genoux, mais s'il vous plaît, ne forcez pas notre peuple à le faire.
Je peux vous умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ.
Voilà, Zelensky s'engage. C'est son premier geste politique. Aux nationalistes ukrainiens, pour qui la langue est une barrière entre vrais patriotes et alliés de la Russie, il rétorque que les Ukrainiens russophones ne sont pas les ennemis de l'Ukraine. 3 jours plus tôt, Poutine a lancé des troupes en Crimée. 2 semaines plus tard, la région sera annexée à la Russie, alors que les Russes, au même moment, déclenchent un conflit dans une autre région ukrainienne, le Donbass. La guerre commence et elle pousse Zelensky sur le devant de la scène. C'est à cette époque, entre le début du conflit et la révolution démocratique, que naît dans son esprit l'idée d'une nouvelle émission. Cela fait plus de 10 ans qu'elle est là, quelque part, dans un coin de sa tête. Il est temps qu'elle éclose. Et si un jour, c'était un citoyen lambda, un homme ou une femme comme les autres, qui était à la tête de l'Ukraine? On pourrait en faire une télé-réalité, par exemple. Une émission dans laquelle des candidats imagineraient un programme et se présenteraient devant les électeurs. Mais ce sera autre chose. L'idée prendra la forme d'une série. Une sitcom appelée Sluga Narodu, Serviteur du peuple. Ô combien prémonitoire. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Voici un scénario très simple, écrit en quelques semaines. Un professeur d'histoire devient président d'Ukraine. Comment en arrive-t-il là? Eh bien, sans le vouloir, tout simplement, par hasard. Il se trouve qu'un élève l'a filmé en cachette en train de se mettre en colère contre le système politique ukrainien et a mis la vidéo sur Internet. Et voilà, le tour est joué.
Потому что достали все эти м***и вот здесь, понимаешь? Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой...
J'en ai ras-le-bol de ces ordures, tu vois? Tu sais pourquoi la vie est dure? Parce que nos choix commencent dans un isoloir en carton, tu vois? Et quel choix on a? On choisit entre 2 salopards et c'est comme ça depuis 25 ans. Et tu sais quoi? Ça changera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que toi, mon père, moi, on recommencera à voter pour une autre ordure. Et on sait tous que c'en est une, mais que son concurrent est pire. Puis ces connards arrivent au gouvernement, ils disent conneries sur conneries, et ils nous arnaquent. C'est toujours la même merde. Et tout le monde s'en fout. Toi, moi, tout le monde. Si je pouvais être au pouvoir rien qu'une semaine, ils verraient.
Dans cette émission « Serviteur du peuple » dont je vous fais grâce de la traduction, Zelensky endosse pour la première fois le costume de président. Oh, un costume grotesque. Vassili Goloborodko, c'est son nom, se retrouve à la tête d'une armée de conseillers tous plus inutiles les uns que les autres, d'une équipe de 20 masseurs, chacun spécialisé dans une partie du corps, avec pour cadre un immense chalet rempli de centaines d'employés, tous chargés de missions insensées. Exemple, Lyubomir, le gardien des autruches. Mais il s'occupe aussi des coatis, des platypus et des babouins. Eh oui, explique l'administrateur du palais, comme ça on fait des économies. Ça le change, lui, Goloborodko, qui vit encore chez ses parents et dont la mère repasse les chemises avant d'aller au lycée. Et comment fera-t-il, lui, le citoyen normal, pour lutter contre les oligarques qui, dans l'ombre, veulent récupérer le pouvoir ? Serviteur du peuple est un chef-d'œuvre de démagogie, mais c'est une comédie extrêmement efficace qui remporte un succès comme jamais la télé ukrainienne n'en a connu. La première saison, diffusée en 2015, un an après Maïdan, a réuni 20 millions de téléspectateurs. C'est la moitié du pays. Les droits sont vendus à Netflix, une première pour un programme ukrainien. Il y a une saison 2, puis une saison 3. Et en Ukraine, comme dans tout le monde russophone, on découvre que Zelensky porte assez bien le costume de président. Comme quoi, Serviteur du peuple n'est pas tout à fait une comédie innocente. Financé par l'oligarque Igor Kolomoïsky, c'est une véritable offensive contre le président milliardaire Petro Porochenko. C'est une campagne électorale dissimulée, un acte ouvertement politique. Président. 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 31 décembre 2018, trois ans après le lancement de la série. Nous sommes à quelques minutes d'entrer dans une nouvelle année, elle sera présidentielle. Les téléspectateurs attendent les vœux du président Porochenko, mais c'est Volodymyr Zelensky qu'ils voient d'abord apparaître à l'écran. Il porte une simple chemise blanche et il s'adresse aux Ukrainiens.
Bonsoir mes amis, nous allons très bientôt célébrer la nouvelle année et nous reprendrons l'émission Quartier du Soir. Mais je fais une petite pause et j'ai décidé de vous parler franchement, en tant que Volodymyr Zelensky.
Chers Ukrainiens,
je vous promets de me présenter à l'élection présidentielle et je vais le faire immédiatement. Je suis candidat à l'élection présidentielle, faisons-le ensemble. Bonne année avec un nouveau serviteur du peuple.
L'idée selon laquelle l'émission où il apparaît en président est à l'origine de son engagement dans la vraie bataille présidentielle est communément une idée admise. Transformer la fiction en réalité. Zelensky n'y connaît rien en économie, pas plus qu'en droit, ni en géopolitique. Eh bien, peu importe. Personne ne sait s'adresser au public mieux que lui. La politique, dit-il, ressemble à du mauvais cinéma où les gens surjouent. Il se présente pour bousculer le système politique et parce que, en bon comédien, il aime être sur le devant de la scène. Mais il n'envisage pas la victoire. Pourtant, au fil des semaines, les sondages montrent que cette candidature pirate a toutes ses chances. 10%, 30%, 40%, donnés gagnants au second tour. Sans faire aucun discours ni aucune promesse, Zelensky séduit. Pour lui, une campagne, c'est une télé-réalité, un contact sans filtre avec les électeurs. Et c'est sur Instagram que ça se passe. Ailleurs, disons qu'il multiplie les banalités. Les quelques interviews des journalistes sur des sujets de fond virent à la catastrophe. On n'a aucune idée de son programme, on ne sait rien de ce qu'il ferait face à Poutine. Mais on connaît Goloborodko, son double, dans la série. Pas besoin de programme, tout est dans Serviteur du peuple. C'est d'ailleurs le nom de son parti. Un diplomate européen résume, plutôt inquiet, le rejet du monde politique est tel qu'on pourrait faire élire un cheval. Oui, et celui-là est un professionnel du spectacle, ce qui n'est pas le cas de tous les chevaux. Se mettre en scène et saisir les aspirations de son public, c'est précisément le métier de Zelensky. Et voilà qu'il se qualifie pour le second tour, largement tête de surcroît, avec 30% des voix face au président sortant Porochenko. Et il demande que le débat d'entre-deux tours ne se déroule pas sur un plateau télé, comme c'est généralement le cas, mais au stade de Kiev, devant 80 000 spectateurs. C'est un duel façon combat de catch, devant une foule en délire, qui oppose les deux candidats à la présidence. Ils ne sont pas face à face, chacun est à un pupitre tourné vers le public. Ce n'est pas un débat, c'est une joute politique.
Si seulement tu savais dans quel état j'ai récupéré le pays en 2014. Sans argent dans les caisses, sans or et sans réserve de change. Sans armée, sans armes.
Tout d'abord, je ne suis pas ton adversaire, je suis ton verdict. Tu m'accuses de me cacher. Mais tu sais que j'ai passé beaucoup de temps à tourner le quartier du soir, Petro Alexeïevitch. Je me suis tourné vers Poutine et je lui ai dit « Je suis prêt à m'agenouiller, mais ne mettez pas l'Ukraine à genoux. » À propos de genoux, je suis maintenant prêt à m'agenouiller devant chaque mère qui a perdu son enfant au front, son fils. J'y suis prêt et maintenant je vais m'agenouiller devant chaque enfant qui a perdu son père. Et toi aussi.
Alors voilà Zelensky qui s'agenouille sur scène sous les applaudissements du public. Et Porochenko, à côté de lui, contraint de faire la même chose en embrassant dramatiquement le drapeau ukrainien. Les codes de la politique ukrainienne ne sont pas tout à fait les nôtres, bien que nous sachions faire de la politique spectacle. Mais Zelensky pousse cette logique jusqu'à son paroxysme. Le débat se termine, on entonne l'hymne ukrainien. Quelques jours plus tard, Zelensky est élu président avec 73% des suffrages. Un score encore plus élevé que celui de son alter ego dans Serviteur du peuple. « Chers concitoyens, dit-il au moment de son investiture, toute ma vie, j'ai tout fait pour faire rire les Ukrainiens. Pour les 5 prochaines années, je ferai tout pour éviter de les faire pleurer. » Les formules sont bien trouvées, mais c'est un mystère qui arrive au pouvoir. Zelensky veut une Ukraine plus juste et un rapprochement vers l'Europe. Bien, mais personne ne sait comment il compte s'y prendre. Et la grande crainte, c'est que cet humoriste n'ait pas les épaules pour faire face à Vladimir Poutine. Décembre 2019, deuxième rencontre avec le russe autoritaire. Cette fois, Zelensky n'est pas sur scène et Poutine n'est pas dans le public. Non, ils sont tous les deux chefs d'État. Réunis pour négocier la fin de la guerre du Donbass qui dure depuis 5 ans. La scène se passe à Paris, à l'Élysée, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel dans le rôle des modérateurs. Zelensky traverse la cour, encadré par la garde nationale. Il salue Emmanuel Macron. On perçoit sur son visage qu'il est impressionné. La politique ukrainienne ne s'entoure pas d'autant d'apparat. Et puis, c'est un président fragilisé qui se présente. 8 mois après l'élection, sa cote de popularité s'est effondrée. Il s'est entouré, heureusement, de conseillers compétents et il travaille beaucoup. Mais son manque de maîtrise des sujets de fond est criante. Les Ukrainiens sont inquiets, alors que la guerre contre les séparatistes pro-russes a déjà fait 14 000 morts. Ce comédien inexpérimenté, qui a eu tant de liens avec la Russie, ne va-t-il pas céder aux exigences de Poutine? Les discussions ont lieu dans un salon autour d'une petite table ronde. En entrant, Zelensky cherche son chemin. Poutine l'arrête, lui fait un signe et lance, autant pour lui que pour les journalistes. « Regarde les photographes, c'est par là. Tout est bon pour prendre l'ascendant. » Zelensky cherche sa place autour de la table. Il s'assied, il a Poutine en face de lui. Merkel et Macron sont entre les deux. Zelensky scrute le visage de Poutine, plus Ramina Grobis à l'époque que véritable dictateur, mais déjà inquiétant, dominateur. En homme de théâtre, l'Ukrainien cherche à comprendre le personnage assis en face de lui. « C'est étrange, remarque Zelensky, parlant de Poutine. Ce type n'a pas de regard. Il a des yeux, mais il n'a pas de regard. » Le salon se vide des journalistes. Les 4 chefs d'État discutent pendant 7 heures. À minuit, les portes s'ouvrent de nouveau pour une conférence de presse. Et Zelensky prend la parole, au nom, précise-t-il, de toute l'Ukraine.
Également, Plusieurs reprises, j'ai insisté sur la nécessité d'assurer le retrait de toutes les formations étrangères, les forces armées et le désarmement dans les régions de Donetsk et de Luhansk. J'insistais que les élections dans DNR et LNR ne pourraient avoir lieu que suivant la législation ukrainienne et en respectant les critères de l'ESE de Copenhague.
Le langage géopolitique, comme l'humour ukrainien, n'est pas forcément simple à comprendre, mais à entendre cette déclaration et à voir la mine ennuyeuse de Vladimir Poutine, les journalistes ukrainiens sont soulagés. Zelensky n'a rien cédé. Et il va même au-delà. Il refuse de mettre en place les accords obtenus sous la contrainte par la Russie quelques années plus tôt. Il veut que l'Ukraine contrôle la frontière au moment où le Donbass votera pour son avenir. « Que ça te plaise ou non, ma jolie, lui répond Poutine, faudra supporter. » Ambiance. Bon, cela dit, Poutine n'est pas fâché de voir cet homme sans expérience parvenir au pouvoir. Mais il l'imaginait plus simple à manœuvrer que le président précédent, militariste et résolument anti-russe. Mais Poutine, comme les Ukrainiens, constate ce 9 décembre 2019 à Paris que Zelensky résiste. Non, il ne cède pas aux intimidations et continue de tourner son regard vers l'Union européenne plutôt que vers la Russie. Et cette résistance, Poutine l'éprouve encore plus amèrement 2 ans plus tard. « 25 février 2022. Ça fait 24 heures que les blindés russes ont franchi la frontière et poncent vers Kharkiv, touchés par les bombes, comme Kharkiv et comme Kramatorsk. 24 heures que Poutine a annoncé le début d'une opération militaire spéciale, je le cite, soit le lancement d'une guerre pour, je cite toujours, démilitariser, dénazifier et maintenir la paix en Ukraine. En vérité, cette invasion, Zelensky n'y croyait pas. Devant l'accumulation des renseignements indiquant l'imminence de l'attaque, il imaginait plutôt une offensive dans le Donbass. Mais ça y est, ça a commencé, dit-il à son épouse au matin du 24 février. Dans les bureaux de la présidence, les conseillers militaires proposent des solutions d'exil pour mettre le gouvernement en sécurité. Zelensky, ils le savent, est la cible numéro 1. Au soir du 24 février, l'invasion russe a déjà fait 130 morts. Les médias à Moscou font courir le bruit que le gouvernement de Kiev a pris la fuite. Les Ukrainiens sont désemparés et assaillis par les rumeurs. Où se trouve Zelensky? Que compte-t-il faire? À la nuit tombée, il poste une vidéo sur Instagram. Il est à l'extérieur. Derrière lui, il y a 4 hommes. C'est lui qui filme en selfie.
Bonjour à tous. Chef de faction présent. Chef du cabinet présidentiel présent. Premier ministre Schmigal présent. Conseiller Podolyak présent. Président présent. Nous sommes tous présents, nos militaires sont présents, les citoyens sont présents, nous sommes tous présents pour la défense de notre indépendance, de notre pays, et ça restera comme ça. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à celles qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
Cette vidéo d'une 30aine de secondes devient un appel à la résistance, derrière lequel se range l'écrasante majorité de l'Ukraine. Non, Zelensky ne fuit pas. La preuve, en arrière-plan, on reconnaît le palais présidentiel, éclairé par des lampadaires. Aux premières heures de la guerre, Zelensky s'écrit un rôle qu'il n'avait imaginé dans aucune des 3 saisons de Serviteur du Peuple. Nouveau costume, t-shirt kaki et polaire militaire, nouvelle devise, Slava Ukraini. Gloire à l'Ukraine. Et nouvelle réplique. À Joe Biden, qui lui propose refuge, il répond. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Et aux soldats russes, il dit. Nous n'attaquerons pas, mais nous nous défendrons. Vous verrez nos visages, pas nos dos, nos visages. Et au monde entier, quand des bombes tombent sur Kiev, elles tombent sur l'Europe. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, dont nous parlons avec nos 2 invités, Ariane Chemin et Yves Geland, respectivement journaliste au Monde. Ariane Chemin, bonjour.
Bonjour.
Et réalisateur de documentaires, Yves Geland, Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'autrice et l'auteur avec Lisa Vapnea, je le précise, d'un documentaire en deux parties sur Volodymyr Zelensky, intitulé « Comment Volodia devint Zelensky ». Alors actuellement en cours de fabrication, qui sera diffusé sur Arte, vous avez une date, une période, Yves Jolland ?
Quand le film sera terminé, c'est-à-dire cette année, en tout cas. Voilà.
En tout cas, c'est cette année.
C'est cette année, oui. On n'est pas loin de la fin. Mais c'est un film en deux volets. Le premier volet est déjà terminé. Et on travaille sur le second.
Bien. Ariane Chemin, vous revenez d'Ukraine ?
Oui.
Là, vous avez rencontré Zelensky ?
Avec Yves.
Avec Yves, deux fois. Deux fois, je crois, ou une
non,
fois ?
Non, une fois.
Une fois. Quelle impression vous a-t-il fait, Ariane Chemin ?
Alors, on l'a rencontré.
C'était quand, dites-moi.
On l'a rencontré fin août. C'était à quelques heures près, le moment où il y avait une sorte de petite trêve estivale au mois d'août, et c'était à quelques heures près le moment où tout d'un coup toutes les grandes villes de l'Est ont recommencé à être bombardées. C'était quasiment au même moment. Mmh. Et donc on a eu la chance de le rencontrer dans un moment où il était encore un tout petit peu détendu, même s'il ne l'est jamais tout à fait, même s'il travaille beaucoup. Et comme c'est un homme évidemment de médias, d'images, etc., qu'il a compris qu'on voulait travailler avec ça, les images de son passé, il a joué le jeu, je dois dire.
Violent, quelle impression il nous a fait.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc forcément quand on le voit arriver en trois dimensions, ça fait toujours quelque chose. Non, on a eu un long entretien avec lui et on avait eu la chance de le filmer deux fois, notamment le 24 août, qui est le nombre 24 est important. Le 24 février, on en a parlé. Le 24 août est le jour de l'indépendance, et donc il y avait sur la place Sainte-Sophie, en plein cœur de Kiev, une cérémonie à huis clos avec assez peu de monde, où ils fêtaient leur 14 juillet à eux, et on a eu la chance de pouvoir le filmer là aussi, ainsi qu'à une conférence de presse. Donc on a vu arriver cet homme qui s'est métamorphosé, enfin vous en avez très bien parlé, donc effectivement il était en kaki,
ouais, comme d'habitude,
et avec cette présence, cette voix aussi dont il faudrait parler, puisque
pourquoi dites
parce que la voix de Zelensky, c'est son marqueur, c'est sa carte d'identité depuis toujours. C'est-à-dire que quand il était gosse, même presque avant l'adolescence, ses copains de classe, ses institutrices nous ont parlé de la voix de Volodia, on l'appelait à l'époque Volodia ou Vova ou Vovan. Et cette voix-là ne correspondait pas à son physique, parce que il était toujours le plus petit de la classe, toujours au premier rang, pour le photographe.
Et avec une voix puissante.
Il avait cette voix rock, cette voix grave, cette voix un peu éraillée. Et finalement, c'est depuis, j'allais dire, le 24 février, que la voix correspond enfin à son physique. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, il s'est laissé pousser la barbe et les muscles. Et donc, la voix correspond un petit peu à ce chef de guerre qu'il est devenu un peu malgré lui.
Mmh. Ariane Chemin.
Ce qui nous a frappé aussi, c'est qu'il a évidemment été plein d'humour. Comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai le souvenir qu'à un moment, Yves lui dit « J'ai regardé tous les épisodes de Serviteurs du Peuple » et il se prend la tête dans les mains et dit « Non mais si j'avais su, j'en aurais fait beaucoup moins !» Donc il arrive à... Ouais. Il ne peut pas s'en empêcher en fait. Hein. C'est comme une espèce de réflexe d'humoriste. Il glisse son petit grain de sel rigolo à chaque... Mais on l'a vu aussi très très grave, notamment quand on lui a montré la photo de son visage à Boutcha. Et là, on a vu à nouveau son visage changer.
Et sur le fond, quel était son état d'esprit ? Quels étaient ses espoirs et ses angoisses ?
Aujourd'hui, c'est une situation très particulière. Il a d'abord redouté l'élection de Donald Trump, mais il l'a très bien anticipé. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est un espèce de jeu diplomatique qui se joue, où lui, en ce moment, il essaye de se mettre Trump dans sa poche, en lui faisant 1000 compliments. J'ai vu qu'il avait décidé, par exemple, que le livre de Melania Trump allait être traduit en ukrainien. Enfin, il fait tout ce qu'il faut pour essayer de se mettre Trump dans la poche, mais c'est évidemment pas gagné. Et sur le terrain, voilà.
Allez, c'est pas... Est-ce que Trump, pour Zelensky, est un modèle politique ou est-ce que c'est du pragmatisme de se mettre bien avec lui ?
Je pense que c'est du pragmatisme, mais en même temps, n'oublions pas qu'ils ont fait de la télévision tous les deux et qu'ils ont été acteurs.
C'est vrai. Zelensky au pouvoir, aujourd'hui, mais avant la guerre, il était au pouvoir avant la guerre. Hein. Quel est son bilan comme président d'Ukraine ? Qui veut répondre ?
Bah, il y avait tellement d'attentes. Il a été élu, vous l'avez rappelé, avec 73% des voix. Et donc là, encore une fois, la fiction était plus forte que le réel que la fiction, puisque le président Goloborod, le président qu'il a incarné à l'écran dans Serviteurs du Peuple, n'avait été élu qu'avec 66% des voix. Donc l'attente était très importante. Et quand l'attente est à ce point importante, et la série à ce point populaire, vous avez rappelé les millions et millions de téléspectateurs, ils ne pouvaient que décevoir. Et évidemment, avant la guerre, sa chute a sombré dans les sondages. Et évidemment, le 24 février, c'est une révélation au moment où on s'y attend peu. Hein. Évidemment, il n'a pas du tout la même démarche, le même réflexe que Yanukovych, qui, vous l'avez rappelé, s'était enfui, avait rejoint la Russie nuitamment, avec en emportant le plus de trésors possible dans ses poches.
Là, j'ai pas besoin d'un taxi. J'ai pas besoin d'un taxi. Voilà, la phrase est très très forte. Hein.
Oui, il est très fort. On l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment un showman. Il est très fort pour trouver des expressions. Et d'ailleurs, autour de lui, c'est d'ailleurs dit dans la série que Ariane avait écrite pour Le Monde et qui a été à l'origine de ce film que l'on prépare, tous les gens qui sont autour de Zelensky, c'est beaucoup de gens qui étaient déjà avec lui dans le studio Kvartal 95 et son entourage le plus proche, les gens qui lui écrivent les discours notamment, dont l'un qu'on a rencontré, Yuri Kotchouk, était celui qui écrivait les discours du président Goloborodko, c'était le scénariste de la série qui devient maintenant, donc c'est un autre entourage, il a vraiment ce goût et ce talent. Et aussi, il faut le dire, le courage d'être resté, cette vidéo qui va tout changer, où la première fois, il y a une première vidéo qui fait juste avant minuit, où s'adresse aux Russes, au peuple russe, pas à Poutine, la nuit du 23 au 24, où là, il est encore en costume cravate. Et puis, ça bascule, et à l'aube du 24 février, on le voit effectivement à côté de Yermak et de tout son gouvernement, le Premier ministre, cette fois-ci avec ce costume qu'il ne quittera pas. Et là, ça devient un nouveau personnage dans le réel, on n'imagine pas Fidel Castro habillé autrement qu'en kaki avec sa casquette. Et lui, d'une certaine façon, il s'est créé ce personnage, et il gardera, je pense, ce costume-là, au moins jusqu'à la fin de la guerre.
Et probablement pour l'histoire. Alors, il y a quelques présidents qui déclenchent des guerres pour reprendre la main, souvent des dictateurs. Lui est un président qui prend une autre dimension par le déclenchement d'une guerre qu'il n'a pas lui-même déclenchée. Est-ce que vous avez senti Ariane Chemin dans son regard, dans son comportement, le sentiment chez lui et la conscience qu'il est devenu une espèce de héros mondial?
Il le sait, il a très bien fait une première tournée de discours dans tous les lieux qui comptaient. Hein, l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Festival de Cannes, la Knesset. Ce qui m'a frappé, parce qu'on le voit en kaki, effectivement, Yves Lamien, c'est quand même un homme qui n'aimait pas la guerre, qui n'a pas fait son service militaire, ça paraît complètement fou, c'est aujourd'hui. Hein, et il est aujourd'hui habillé comme un chef de guerre. Hein, il ne quitte jamais son t-shirt kaki, qui est devenu iconique, d'ailleurs, qui est en vente ce qui reste du petit quartier touristique de Kiev. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, vous l'avez très bien rappelé, c'est que quand il est élu en 2019, l'Occident, la upper class, c'est-à-dire la haute société de Kiev ne l'aime pas du tout. Il préfère mille fois son opposant. D'abord, on pense que son opposant est beaucoup plus anti-russe que Zelensky, puisque Zelensky est russophone, rappelons-le, comme il vient de l'Est de l'Ukraine. Et en fait, c'est vraiment un populiste. On le retrouve, c'est l'époque où en France, on publie des tas de livres sur le populisme et où se retrouve toujours Zelensky dans des chapitres au milieu des plus grands populistes. Et c'est vrai que souvent la guerre peut révéler un homme, et celle-ci l'a révélé. Il reste, contrairement à ses prédécesseurs, tout de suite il a l'intelligence de comprendre comment il faut parler, il met effectivement son habit de soldat, et ça aussi c'est le talent, pas seulement de l'acteur.
Et à votre avis, comment le ressent Poutine ? Qu'est-ce que pense Poutine? Alors, il faudrait lui poser la question, mais on peut peut-être arriver à déceler ça à travers des comportements de Poutine, à travers des déclarations. Qu'est-ce qu'il en pense, Poutine, de Zelensky, à votre avis?
Bon, au début, il avait pas mal de mépris, hein, et il était plutôt content, Ariane l'a rappelé, que ce soit Zelensky qui soit élu plutôt que Porochenko. Et finalement, il finit par déchanter parce qu'il voit qu'il a finalement affaire à quelqu'un de plus coriace. Il pensait vraiment, le 24 février, n'en faire qu'une bouchée. C'est-à-dire que, vraiment, les troupes russes marchaient sur Kiev et ça devait être une guerre éclair. Et en fait, il y a eu une résistance à laquelle il ne s'attendait pas. Au début, il a vraiment un grand mépris pour lui. Il dit oui, c'est une chose que de jouer un rôle et c'est autre chose que d'être vraiment. Mais en fait, d'ailleurs, il y a une chose que vous dites dans l'émission. La première fois qu'il rencontre Zelensky, Poutine, c'est vraiment à Paris. En fait, c'est une légende qu'il a joué devant lui.
C'est Zelensky qui le dit.
Oui, acheté la légende. Ouais.
Voilà. Mais c'est une belle légende. Mais il se voit vraiment pour la première fois. Et effectivement, il y a cette distance. Et puis, il y a une génération différente. Et Zelensky Et c'est systématiquement de ringardiser Poutine. Mais après, il y a la dure loi de, ben, des forces en présence.
Je crois aussi que Poutine, il a aussi le mépris du Russe pour l'Ukrainien. L'Ukrainien, c'est un peu le plouc pour le Russe. C'est un peu... Ils l'ont très bien senti, la petite troupe du Quartal qui venait de Kryvyi Rih quand ils sont arrivés pour jouer à Moscou. Ils étaient les moins que rien. Ils sentaient ce dédain. Bon, il y a ça. Et puis... je crois aussi que Poutine, il a été victime de ces services de renseignement d'information, mais Poutine pense sincèrement qu'on va les accueillir avec des fleurs. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des babouchkas qui se mettent en travers des chars, et à Moscou, on ne comprend pas du tout.
Et Yves Jolland, vous avez réalisé de nombreux documentaires sur de nombreux artistes, des comédiens notamment, des chanteurs. Comment met-on en scène, dans un documentaire, quelqu'un qui sait se mettre en scène lui-même? Je parle de Zelensky, évidemment.
Oui, oui, il faut faire attention quand on est en salle de montage avec Ivan, avec Lisa. On se dit, attention, cette image, c'est une image produite par Kvartal 95. Donc, on voit à quel moment on est ou pas dans dans la propagande ou dans la propagande électorale. Après, il a vraiment un talent formidable. Donc, mes deux passions et tous mes films tournent autour de la politique et des artistes. Et là, j'ai un artiste politique. Donc, faut savoir que quand Zelensky s'adresse juste après le début de la guerre, au mois de mai 2022, au Festival de Cannes, donc, il dit le discours de Chaplin du dictateur. Donc, il se trouve que j'avais aussi réalisé un film sur Chaplin. Et il est fan de Chaplin, mais il est fan aussi de Louis de Funès, de Pierre Richard. Il est fan de Monty Python plus tard. Et donc, il va se nourrir de tout ça. Et donc, évidemment, tout ça se retrouve dans les archives qu'on manie en salle de montage, et on voit le talent fou qu'il a dès l'école, dès la petite enfance. Il prend des cours de danse de salon, il va gagner Danse avec les stars. Plus tard, il va venir en France pour participer à la version ukrainienne de Fort Boyard. Et donc, on a vraiment un destin follement romanesque, et de burlesque, on passe au tragique, et voilà. Donc, l'histoire n'est pas terminée.
Ariane Chemin, maintenant que Zelensky a annoncé être prêt à négocier la cession temporaire, dit-il, des régions ukrainiennes occupées. Est-ce que les Ukrainiens ont changé d'opinion sur lui? Est-ce qu'il est en train de les décevoir? Ou est-ce que les Ukrainiens se disent on est quand même en guerre contre la Russie, quoi, c'est pas n'importe qui, faut bien trouver des solutions?
Il y a eu une sorte du nom sacré autour de Zelensky en 2022,
oui,
et qui dure encore un petit peu. Mais vous savez, c'est très compliqué parce que chaque famille ukrainienne compte désormais un mort. Et comment pardonner à un président, même si il se défend bien, même s'il assure, comme on dirait. Comment pardonner à un président quand vous avez quelqu'un de votre famille qui a disparu? C'est très difficile, c'est très difficile pour Zelensky. Aujourd'hui, on voit, là, j'en reviens, ce qui me frappe, c'est que tout le monde veut la paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vouloir la paix? Le pape veut la paix.
À quelles conditions?
Voilà, mais à quelles conditions? Et c'est moins clair, je pense, dans l'esprit des Ukrainiens que ça n'allait dans l'esprit des Européens ou à l'extérieur du pays. Il n'y a pas de critique frontale, mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai senti que le pays était dans une espèce de pré-élection présidentielle qui n'osait pas se dire parce que ce serait indécent. Mais quand on voit dans le pays ces grandes affiches avec les meilleurs soldats, le plus gros donateur, l'ancien président qui va sur le front, on se dit il y a quelque chose, il y a l'après qui se prépare.
Ce sera le mot de la fin. Yves Jolland, Ariane Chemin.
Merci.
Merci infiniment. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Fischer.